Évangile pour le couple. L'Évangile pour le couple. Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévot.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous voici pour une nouvelle émission, Maud, pour l'Évangile pour le couple. Avec la dernière fois, Maud, nous avions commencé à approfondir toute le témoignage chrétien qui est vraiment l'antipharisaïsme. C'est pas pour se montrer, c'est pour pouvoir vraiment présenter le Christ. Et nous allons essayer d'approfondir, Maud, pendant cette émission, cette spiritualité du témoignage, avec un titre qu'on a choisi, qu'on a emprunté à un de nos amis prêtres et théologiens. Nous ne sommes pas des héros, nous sommes des vénards. Et pour cela, Maud, nous allons commencer d'abord par un évangile, dans l'évangile de Jean.
Oui, où on cite une parole que Jean-Baptiste répond aux Juifs qui interrogent sur Jésus. Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même, vous êtes mes témoins, car j'ai dit que je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Qui a l'épouse a l'époux. Mais l'ami de l'époux est se tient là et attend. Il est ravi de l'époux lorsqu'il entend sa voix, car telle est ma joie et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue.
Voilà beaucoup de dans cet évangile assez court, hein, beaucoup de choses sont exprimées concernant la spiritualité et l'attitude de l'évangélisateur. Alors on va passer en revue différents points évoqués par cette parole. Et d'abord évoquer, Maud, le fait que l'évangélisateur, le missionnaire, le témoin, le chrétien, le couple chrétien qui témoigne est d'abord évangélisé lui-même par la parole qu'il annonce et par le témoignage qu'il donne.
Oui, ça c'est une expérience constante de l'évangélisation, c'est-à-dire que quand on est amené à proclamer la parole de Dieu et à proclamer des choses qui touchent évidemment à la vie, on est les premiers à être concernés par ce qu'on dit, à se dire mais enfin j'ai annoncé par exemple le pardon, j'ai parlé de la miséricorde, j'ai parlé de la douceur, de la tendresse, et moi comment je le vis? Donc il y a un effet systématiquement de retour sur soi par rapport à la parole qu'on a prononcée, parce que si on annonce, on sait très bien qu'on ne vit pas tout ce qu'on dit, mais on doit quand même s'y conformer le plus possible, sinon on finit par être, disons, en dichotomie entre le discours et le comportement et les actes. Et ça, on sait que c'est le contraire de l'exigence évangélique, puisque le Christ nous incite tout le temps à mettre en œuvre ce que nous annonçons.
Voilà, c'est pour ça que Paul VI dira que la prédication, le témoignage, fait grandir en sainteté le prédicateur. C'est-à-dire qu'il nourrit, en fait, l'évangélisation nourrit la spiritualité et la sanctification du témoin. C'est des sauvés qui témoignent. C'est pas quelqu'un qui dit « moi je suis bon, je suis meilleur que les autres », etc. Il n'a pas l'ambition de se donner comme modèle. Le seul modèle, c'est le Christ. Et donc, la mission, l'évangélisation, selon la foi chrétienne, la spiritualité chrétienne, agit comme un boomerang. Finalement, objectivement, c'est pour toucher tel ou tel extérieur, mais le premier concerné, finalement, c'est moi-même, c'est nous-mêmes.
Oui, surtout qu'on est obligé de constater, justement, que nous sommes plus proches de ceux que nous évangélisons que du Christ qui est notre modèle. Donc nous sommes en chemin vers de conversion, nous aussi, même si on est un petit peu plus avancé que celui à qui on parle éventuellement, c'est pas pour ça qu'il ne nous précédera pas au royaume. Donc il y a vraiment un travail de reconnaissance de son humilité, dans le sens où on n'est pas des parfaits et on est là pour annoncer la parole.
Alors, il faut aussi entendre des choses, quand Saint Jean-Baptiste dit « il faut que le Christ grandisse et que je diminue », donc c'est moi qui dois diminuer, c'est pas le Christ. Or, souvent, au travers de cette parole, elle a été interprétée en disant « finalement, les chrétiens, ils doivent faire un peu rasage de mur ». L'humilité pour nous-mêmes, mais pas l'humilité par rapport au Christ et par rapport à la puissance de l'évangile. Donc humilité ne veut pas dire rasage du mur, ne veut pas dire relativité du message, absence de zèle, de conviction. C'est ça qui est important. Et souvent, Parce qu'il fait peut-être que l'Église, à certains moments, à certaines périodes, avait une attitude un peu tout triomphaliste. Du coup, c'est un peu l'effet de balancier inverse. Il faut que je diminue, il faut quasiment que l'Évangile diminue ou que le Christ diminue. Et finalement, on n'ose pas trop affirmer qu'il est vraiment Seigneur et Maître et Sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a pas d'autre Sauveur.
Voilà, un autre point qu'on pourrait souligner, parce que c'est vraiment l'attitude du missionnaire est importante, c'est que justement le missionnaire n'est pas supérieur aux personnes à qui il annonce la parole. Il a simplement la chance d'avoir connu le Christ, de l'avoir rencontré et de vivre avec lui. Donc c'est pour ça qu'on reprend sans arrêt cette idée, le titre de cette émission, nous ne sommes pas des héros mais des vénards. Le fait de connaître le Christ, c'est une chance inouïe et notre désir est de la communiquer. Mais pour cela, nous n'avons aucune supériorité à tirer du fait que nous avons eu cette chance. Au contraire, tout nous a été donné par Dieu, nous le reconnaissons humblement, tout ce qui est fait par nous vient de l'Esprit-Saint, et c'est une joie de le constater, mais on ne doit pas s'attribuer, si je puis dire, ce mérite. Il n'y a aucun mérite de notre part.
Alors, il y a deux paraboles, Maud, qui peuvent nous éclairer par rapport à ce titre de cette émission. D'abord, celle de la parabole des travailleurs à la vigne et leur salaire. Vous rappelez cette parabole où il y a différents travailleurs qui sont appelés tout au long de la journée et à la fin, ils sont payés de la même manière. Donc, voilà, on est tous sur un même pied d'égalité. Ceux qui ont commencé tôt, ceux qui finissent entre guillemets tard, qui arrivent tard dans l'accueil du maître et répondent à l'appel du maître de la moisson. Mais voilà, il faut vraiment entendre qu'on est tous égaux et qu'il faut bien une humilité de la part du missionnaire, parce que nous sommes là uniquement par miséricorde. On est des vénards, on n'est pas des héros de témoigner, on n'est pas des héros d'évangéliser, on n'est pas des héros de rendre compte de ce que le Seigneur a fait pour nous, parce qu'il a tellement fait plus pour nous que nous faisons pour lui.
Oui, et dans cette parabole qui est en tout cas moi je trouve très très consolante, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les ouvriers de la première heure, ils ont eu la chance de passer la journée effectivement dans le champ du Seigneur et dans la vigne du Seigneur. Ils étaient déjà au travail et déjà sécurisés sur leur salaire. Et heureusement que les ouvriers de la 11e heure sont aussi payés, parce que sinon pour nous évangélisateurs, il y aurait un sacré stress de ne pas se dépêcher d'annoncer la parole à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Ça nous laisse un petit peu de champ. Jusqu'à la dernière heure de la vie, nous pouvons continuer à annoncer la parole.
Alors, il y a une deuxième parabole qui peut nous éclairer aussi sur cette spiritualité de l'humilité du missionnaire. C'est la parabole de l'enfant prodigue, où effectivement, il y a celui qui a eu une vie complètement décousue, etc., puis qui vraiment qui se rend compte de tout le malheur qu'il a créé dans sa vie, qui revient vers son père et qui tombe dans ses bras, et c'est toute la miséricorde du père, etc. Et puis après, il y a la colère du fils aîné, qui lui a toujours été droit dans ses bottes, etc., qui a toujours été d'équerre, et qui pique une colère noire, qui refuse de participer à la fête. Et c'est tout l'écueil qui peut être le nôtre, en disant, attends, moi je suis missionnaire, je suis à l'église, j'annonce la parole, donc j'ai certains droits. Et là, le fils aîné, il est en train de revendiquer un certain nombre de droits, mais nous n'avons qu'un seul droit, c'est celui qui est de la miséricorde. C'est pour ça que notre attitude doit être l'attitude de ceux qui ont d'abord sont des sauvés. C'est pas ceux qui savent, les autres qui savent pas, donc Jojo les biscottos, comme est un peu l'aîné, mais vraiment cette attitude fondamentale d'être d'abord des pardonnés et des sauvés. Ce qui va changer complètement notre attitude, notre regard, dans la dynamique de la mission qui est la nôtre.
Oui, je pense que tu soulignes un point vraiment, vraiment prioritaire dans la mission, c'est qu'effectivement, le missionnaire doit être habité en premier par un profond amour des personnes à qui il va annoncer la parole. Et c'est que c'est cette attitude de cœur qui va permettre aussi à l'Esprit-Saint de se saisir de la parole et de toucher le cœur des personnes en face. Il y a d'abord un profond regard d'amour. Rappelons-nous le nombre de citations dans l'Évangile où Jésus regarde les gens, il posa son regard sur lui et il l'aima, Jésus le regarda et l'aima, et c'est vraiment important cette idée que l'évangélisateur parle à des personnes qu'il doit apprendre à aimer et respecter profondément.
Voilà, et c'est vraiment effectivement, Maud, l'importance pour le missionnaire, le témoin, de respecter le cheminement et d'identifier le cheminement existentiel, le chemin de vie, ce qui fait son mystère, qui habite le cœur de tout homme, avec un chemin tortueux, complexe, libre, mais parfois douloureux, etc. Et donc de vraiment d'accueillir le cheminement mystérieux qui est chez chacun.
Oui, Jean-Paul II nous incite aussi à cette attitude dans la mission du Christ Rédempteur. Il nous dit « L'annonce doit être faite avec une attitude d'amour et d'estime ». C'est-à-dire que vraiment nous sommes à pied d'égalité avec les personnes que nous évangélisons, mais nous sommes là pour leur porter une bonne nouvelle qui est notre joie. Et c'est cette bonne nouvelle-là, nous n'avons que de cesse que de leur annoncer pour qu'eux eux-mêmes trouvent la joie.
Voilà. Et puis, l'autre point aussi important, c'est de souligner, parce que disait Jean-Paul II, c'est qu'avoir la conviction que l'Esprit-Saint qui est mystérieusement présent dans le cœur de tout homme, donc dans celui qui lui-même a vraiment même rejeté la foi, etc., ou ne la connaît pas, etc., il y a la conviction que l'Esprit-Saint habite son cœur et qui lui fait rechercher, parfois de manière très tortueuse, le bien. Le bien et l'image de Dieu qui est en lui. Je crois que nous l'avons longuement médité dans d'autres émissions. C'est que finalement tout homme, tout couple recherche finalement l'image de Dieu qui est présent en son cœur. Voilà, on se retrouve dans un instant. Voilà, Maud, pour avancer, réfléchir, méditer sur la spiritualité du missionnaire. Et nous insistions, Maud, sur le fait que de toute l'importance du respect de l'eau, de l'amour de l'eau, de l'humilité, d'avoir une étude de miséricorde. Mais, ceci étant dit, il ne faut pas non plus confondre cette attitude fondamentale et première vers un glissement, vers un certain relativisme de ce que nous annonçons. Comme si jamais c'était une voie parmi d'autres. Humilité ne veut pas dire, oh, vous savez, c'est une voie parmi d'autres. Non, Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Oui, Jean-Paul II nous le disait, l'Esprit-Saint est mystérieusement présent dans le cœur de tout homme, certes, mais ce n'est pas pour ça que le cœur de l'homme n'attend pas qu'on lui annonce le Christ. Au contraire, l'Esprit-Saint ne désire qu'une chose, c'est qu'on annonce le Christ. Donc notre culture moderne a été tellement marquée par une philosophie du doute, du soupçon, où il fallait respecter ce que chacun avait, poser des questions, être dans l'incertitude, c'est ça qui ouvre à l'accueil de l'autre, etc. Moi, je pense pas que ce soit forcément un bon chemin. Nous avons la certitude que le Christ est notre Sauveur, nous en avons la conviction profonde. Le respect de l'autre ne veut pas dire de ne pas lui annoncer. La façon de le faire, bien sûr, est importante. Mais justement, respecter l'autre, comme disait aussi le cardinal Ratzinger, il disait, c'est la première des charités à faire à notre prochain, c'est de lui annoncer le Christ.
Alors, c'est pour cela que Paul VI dans sa réflexion sur la mission d'évangélisation, sa fameuse encyclique sur l'évangélisation dans le monde moderne qui est parue en 75, qui est vraiment le fondement vraiment de toute l'évangélisation, la nouvelle évangélisation telle qu'elle a été développée par Jean-Paul II et après Benoît XVI, c'est transmettre non pas des doutes et des incertitudes, mais des certitudes solides, parce qu'ancrées dans la parole de Dieu et le magistère de l'Église, la foi de l'Église. Et c'est ça qui est fondamental. J'ai une attitude de cœur qui doit être humble, mais dans cette attitude humble et miséricordieuse, je dois pouvoir dire à temps et à contre-temps, je dois pouvoir dire, non pas de transmettre des doutes, mais la certitude de la foi, la certitude de la révélation. Car c'est ça ce dont nous avons besoin. On imagine, Maud, si jamais les apôtres à la Pentecôte avaient commencé à transmettre des doutes, et non pas à transmettre vraiment cette attestation profonde de la foi. Et c'est vrai qu'il y a un peu une conception un peu pastorale en disant oui, attention, vous allez froisser vos interlocuteurs si jamais vous arrivez avec trop de convictions. Mais c'est pas d'abord nos convictions, c'est la conviction de l'Église, de 2000 ans d'Église. Et donc l'évangélisation, c'est d'attester le Christ.
Absolument, le Christ est le chemin, la vérité, la vie. Donc nous devons montrer le chemin. Après, chacun a la démarche, l'attitude de cœur qu'il désire pour s'approcher ou ne pas s'approcher du Christ et avancer ou ne pas avancer. Et là, nous devons avoir un profond respect du chemin de chaque personne. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit relativiser le message du Christ.
Alors là aussi, il faut avoir, je pense, une certaine miséricorde vis-à-vis peut-être de certains qui, ces dernières années peut-être, etc., ont été extrêmement prudents dans cette attestation, parce que peut-être que l'Église, on ne la juge pas par rapport à ça, mais en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Effectivement, l'Église peut-être avait une manière d'attester la foi qui n'était pas miséricordieuse, qui n'était pas respectueuse, en tout cas pas perçue suffisamment comme respectant les interlocuteurs et les non-croyants. Mais du coup, un peu, le bébé a été jeté avec l'eau du bain. Et donc peut-être qu'il y a un peu un retour de balancier équilibré, justement, qui par exemple nous fait avoir l'Église tout un dialogue avec les non-chrétiens, les autres religions, etc., qui est absolument fondamental, respect, etc., mais aussi, en parallèle, une attestation très forte. Voilà. Et c'est pour cela que nous voulons, dans cette deuxième partie, approfondir le fait que respect ne doit pas être synonyme de manque de ferveur, ne doit pas générer une lassitude, une attitude défaitiste, et une autocritique permanente vis-à-vis de la mission. Et Maud, nous voudrions citer notamment un texte de Paul VI qui est très important.
Paul VI nous dit « Le manque de ferveur est d'autant plus grave qu'il vient du dedans de l'Église. Il se manifeste dans la fatigue et le désenchantement, la routine et le désintérêt, et surtout le manque de joie et d'espérance. » Voilà. Ça, c'est vraiment contraire à la parole de Jean-Baptiste que nous citions pour commencer. Quand nous annonçons l'époux, nous avons la joie, et ma joie est parfaite, et elle grandit à la vue de l'époux et quand on entend la voix de l'époux.
Parce que justement, nous savons que nous sommes sauvés et que c'est un bonheur tellement immense que nous avons un enthousiasme et une joie de pouvoir la transmettre. Et donc, Paul VI revenait sur le fait que ce défaitisme, ce désenchantement, cette fatigue missionnaire, il allait jusqu'à dire que c'était comme un péché contre l'esprit qu'il nous exhorte et qu'il exhorte l'Église à combattre. Pas comme ça, mais par un accueil personnel et renouvelé de l'Esprit-Saint au cœur de la vie de chacun, au cœur de la vie des communautés. Parce que c'est l'Esprit-Saint qui inspire sans relâche notre cœur, notre ferveur, notre enthousiasme, qu'il nourrit notre esprit apostolique et qui conduit justement à mettre sur les routes et à mettre sur le chemin des évangélisateurs. Donc voilà, combattre en nous cet esprit du défaitisme et du relativisme.
Et garder justement cette joie de l'espérance qui est vraiment la signature des chrétiens et qui doit transparaître dans tout ce qu'on dit. Et cette joie-là, elle est communicative, elle est attirante. Et c'est cela qui fait que le message est aussi reçu. Alors si on annonce le Christ en disant « Oh, bah, tu sais, c'est une voix comme une autre. Oui, pour moi c'est bien, mais peut-être que pour toi ça convient pas. » Bon, ça donne envie à personne. Personne ne serait capable de se sentir intéressé par ce genre de discours. Donc il faut vraiment en revenir à une annonce, je dirais, plus simple de la foi.
Authentique, directe, explicite, respectueuse. Et chose importante, c'est que on sait qu'aujourd'hui, avec, il y a parfois un certain nombre de débats sur disant oui, il y a une régression par rapport à Vatican II, etc. Et justement, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI reviennent toujours sur des fondamentaux en disant attention, on fait dire au Concile des choses qu'il n'a jamais dites. Paul VI, par exemple, il parlait des alibis insidieux, soi-disant inspirés du Concile, qui conduisent à finalement baisser la garde par rapport à l'enthousiasme missionnaire, à conduire à l'objectif de la mission, c'est de conduire à la conversion. Mais certains disent, ah ben non, en raison du concile, on ne connaît pas la conversion parce qu'on ne respecte pas les gens. Mais ce n'est pas du tout, c'est pas du tout l'esprit du concile, ce n'est pas du tout l'esprit de l'évangile. Et Paul VI rappelait, pour dénoncer ces alibis insidieux, il parlait, rappelons-nous de la parole de saint Paul et des apôtres qui rougissent de l'évangile.
Oui, voilà. Et à ce moment-là, le texte de la parole dit que le Christ rougira d'eux devant son Père lorsqu'ils seront au royaume, quand ils arriveront au royaume. Donc il y a une vraie, je dirais, c'est pas à prendre à la légère. Si le Christ nous a avertis que c'était important, ne rougissons pas du Christ pour être vraiment capables d'être des vrais témoins et des fidèles serviteurs de sa parole.
Alors Maud, tu pourrais, après les paroles de texte de Paul VI, Jean-Paul II aussi a des paroles très très précises concernant cette situation.
Oui.
Dérive.
Alors là, il est assez ferme. Hein. Il dénonce ce qu'il appelle une indifférence, malheureusement très répandue parmi les chrétiens et souvent fondée sur des conceptions théologiques inexactes et imprégnées d'un relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent.
Voilà, c'est dans l'encyclique sur la mission du Christ rédempteur. Ce n'est pas parce que l'Église est engagée fondamentalement dans un dialogue interreligieux fondamental, essentiel pour la paix des communautés, pour la paix des peuples, pour le respect, pour la compréhension, etc., que l'Église ne garde pas la profonde conviction que la plénitude de la vérité est dans la révélation chrétienne et dans le Christ, et qu'il n'y a qu'un seul sauveur et que c'est le Christ. Même si, effectivement, le Concile reconnaît que des pépites de l'Esprit Saint habitent le cœur des hommes de bonne volonté et non de religion. Il ne faut pas les mettre en opposition, et souvent c'est mis en opposition. Et donc ça conduit parfois à une attitude qui n'est pas juste de nos communautés ou de nous chrétiens dans nos attitudes, je dirais, missionnaires et de témoins.
On va citer aussi une parole de Paul VI qui justement parle de cette attitude des évangélisateurs qui a été, je dirais, vérifiée dans l'histoire par des multiples relais. Et on pourrait en citer des saints évangélisateurs qui ont correspondu à cette description.
Alors, donc, nous avons besoin d'évangélisateurs non tristes et découragés, non impatients ou anxieux, mais des ministres de l'Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie de Christ et qui acceptent de jouer leur vie pour que le royaume soit annoncé et l'Église implantée au cœur du monde. Voilà. Donc, c'est vraiment un appel fondamental de l'Église, vraiment à se dire, à avoir toujours la conviction que nous avons à attester de l'Évangile, pas d'abord de manière intellectuelle, parce que la source de l'annonce, elle est dans la joie, dans la dilatation intérieure que Jésus m'a sauvé, que Dieu m'aime, que sa miséricorde m'a remis debout, etc., etc. Et donc c'est d'une joie dilatante, et donc la mission à ce moment n'est qu'un débordement sur laquelle se nourrit l'enthousiasme, Maud.
Oui, et ce débordement, il est nourri, nous, pour nous, couples, puisque nous parlons de cette mission des couples. Pour nous, couples, il faut qu'il soit attesté dans notre vie par notre vie conjugale. C'est-à-dire que nous allons puiser cette énergie, cet enthousiasme, cette joie de l'annonce au cœur même de notre vie conjugale et familiale grâce aux fruits de l'esprit qui vont être donnés en surabondance comme signature de la présence de Christ entre nous deux et avec nous deux.
Voilà Maud, en tout cas c'est avec, nous souhaitons cette joie, cette profonde joie, cette profonde espérance qu'elle habite vraiment le cœur de vous, conjoints, couples, que vous soyez vraiment habités par cet Esprit Saint qui brûle nos cœurs, qui nous fait, qui nous rend enthousiastes dans l'annonce de la parole et d'être témoin du Christ d'abord auprès de nos enfants et auprès de tout notre entourage. Et à ce moment-là, ce n'est pas une activité apostolique ecclésiale, mais c'est simplement un débordement d'une joie qui nous habite et d'un enthousiasme qui nous transporte. En tout cas, c'est cet Esprit Saint que nous invoquons sur chacun de vous. Soyez bénis.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The extravagant love of God. The intimate friendship